La tech, comme tout secteur de l'économie, a ses temps forts où les acteurs se réunissent. Je pense évidemment à VivaTech en France ou au Web Summit à Lisbonne. Ces grandes messes qui mélangent start-up, investisseurs, grands groupes et curieux n'échappent pas aux annulations en série dans un contexte sanitaire qui ne reviendra pas à la normale avant plusieurs mois, si ce n'est plus. Heureusement, il y a aussi des événements à taille plus humaine qui réussissent à maintenir les rassemblements. C'est le cas du France Digital Day et pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Frédéric Mazella, co-président de l'association France Digital et ses 1800 startups adhérentes, mais il est aussi fondateur de Blablacar. Rien que cela, vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. Allez, go!
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
La France Digital Day est le 15 septembre. À quelques jours de l'événement, existe-t-il encore un doute sur sa tenue ?
Ah non, c'est ancré. Non, à ce stade-là, on avance comme prévu.
Je suppose que ça a été évidemment votre inquiétude quand vous avez vu l'actualité les semaines précédentes, les mois précédents ?
Oui, bah forcément. C'est-à-dire que plus les jours avancent, plus on se demande ce qui va se passer, mais en même temps, si on n'essaye pas de cranter et de planifier des choses, bien, on se retrouve juste avec la solution qu'on a choisie et qui serait de ne rien faire. Et c'est pas ce qu'on a voulu faire. On a vraiment voulu prévoir que ça aurait lieu et se dire que ce serait possible et ça va être le cas.
Alors évidemment, je pense que vous l'avez adapté, cet événement. On parle beaucoup des commerces, des entreprises qui souffrent d'un chiffre d'affaires sabré. Est-ce possible d'être rentable quand on réduit par deux le nombre de participants à un événement comme le vôtre, comme le France Digital Day ?
Alors oui, parce qu'il faut voir qu'un événement comme le France Digital Day, c'est pas tellement les entrées qui vont le financer, c'est plutôt évidemment tous nos sponsors qui soutiennent l'écosystème digital au sens large. Donc en fait, c'est un événement majeur aussi de par sa, enfin c'est l'événement de rentrée et puis de par sa portée sur tout l'écosystème tech. Et donc il n'est pas explicitement financé par les entrées, donc c'est pas forcément lié. Tous les sujets qu'on va aborder sont des sujets qui concernent tout l'écosystème et qui seront relayés y compris sur les réseaux sociaux et qui donneront de la visibilité. Donc en fait, l'équilibre financier dans un cas comme ça, il n'est pas tellement menacé, même si effectivement il a fallu qu'on fasse quelques choix radicaux pour pouvoir le faire fonctionner.
Quand on parle d'adaptation, il y a aussi évidemment le programme. Je suppose que ta réflexion avec toute l'équipe de France Digital a été de faire en sorte que ça corresponde à l'actualité chaude. Est-ce que, en effet, il va y avoir des changements pour évoquer la pandémie puis les changements sociétaux qui sont à l'œuvre en ce moment ?
Alors, on va reprendre beaucoup des sujets qu'on avait abordés avant et pendant évidemment la crise. On a une grande thématique actuellement qui s'appelle alternative. Et pendant le France Digital Day, on a trois scènes et on a la scène talent sur laquelle on va parler des alternatives au métro boulot dodo. On a la scène Europe sur laquelle on va parler des alternatives à la toute puissance de la Silicon Valley. Et on a notre scène impact sur laquelle on va parler des alternatives à l'hypercroissance. Donc en fait, cette thématique alternative, elle est vraiment un fil rouge sur cet événement et elle nous permet justement d'ouvrir un petit peu les modes de pensée.
Ça risque d'être très intéressant, en effet. As-tu quelques noms de speakers présents le 15 septembre à nous partager ? Peut-être ceux qui retiennent un peu plus ton attention ou ceux que toi-même tu es pressé d'entendre leurs mots ?
Bah, on aura pas mal de gens de l'écosystème français et européen. On aura Laurence Lochner de Tier Mobility. Alors après, au niveau des sociétés qui sont présentes, ça va de Cdiscount, Livestorm, Le Bon Coin, Yubo, WeSings, il y en a tellement, Shine, Oracle, enfin on a tout un tas de sociétés qui vont s'exprimer avec leur vision. Donc en fait, avec toutes les thématiques alternatives, je pense qu'on va avoir pas mal de matière.
Super, en effet, c'est assez riche. Je parlais en introduction des événements les plus colossaux dans la tech. Comment vois-tu l'avenir de ces salons qui sont, mine de rien, de plus en plus nombreux ?
Alors oui, effectivement, c'est une vraie question. Je pense que l'industrie de l'événementiel en général, et pas seulement pour les événements tech, se pose beaucoup de questions. Peut-être d'ailleurs que les événements tech sont les mieux positionnés parce que justement, leur public étant déjà très connecté, ils vont pouvoir continuer à dialoguer avec leur population habituellement de visiteurs et pouvoir peut-être faire des salons virtuels plus facilement que d'autres industries. Mais cela dit, c'est forcément une grosse secousse pour tout ce monde-là. C'est-à-dire des événements à 100 000 ou 150 000 personnes. Je ne sais pas si ou comment on va pouvoir les réorganiser dans les mois qui viennent. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se réinventer.
Quel regard portes-tu sur ces derniers mois ? Plus précisément, trouves-tu que les entreprises de la tech ont été résilientes, qu'elles ont réussi à bien s'adapter à ces conditions qu'on a tous découvert et puis qui nous a tous surpris parce que personne n'est préparé à une pandémie ?
Alors forcément, c'est les Chinois ont un sigle qui dit à la fois crise et opportunité. Effectivement, une crise, c'est également des opportunités, mais donc forcément, on se retrouve avec des gagnants et des perdants. On a vu des sociétés qui s'en sortent remarquablement bien, justement, parce qu'elles sont parfaitement adaptées au monde d'après, même si on ne sait pas trop ce qu'est le monde d'après. Pour l'instant, on est dans le monde d'aujourd'hui, qui est une sorte d'entre-deux, entre avant la crise et après la crise, puisqu'on est encore dedans. Oui, des sociétés comme Doctolib ou Miracle s'en sortent incroyablement bien, évidemment, parce qu'elles offrent des services à distance qui sont compatibles avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bon, puis après, évidemment, il y a des sociétés pour lesquelles c'est plus compliqué. Tous ceux qui sont sur le voyage ou sur l'événementiel souffrent évidemment beaucoup plus de la situation actuelle. Mais globalement, dans le digital, et j'ai envie de dire un indicateur assez simple du fait que le digital est résilient, on va dire, par rapport à une crise comme celle-ci, c'est de voir les valorisations, notamment des sociétés américaines. Les GAFA sortent renforcés de cet épisode. Hein, et le digital au global, qui correspond tout simplement à la capacité d'interagir à distance, évidemment, est un palliatif très fort à la nécessité imposée par le coronavirus qui est de pas se voir ou de moins se voir. Donc forcément, on doit interagir à distance et à ce moment-là, tout ce qui est digital, eh bien, prend le relais.
Est-ce qu'il est nécessaire de s'inquiéter pour l'avenir et la capacité pour de nouvelles startups de voir le jour ? On peut craindre notamment une certaine frilosité pour financer du capital risque.
Je pense qu'il y a une inertie dans le capital risque qui est plus forte que ça. C'est-à-dire que c'est pas quelques mois qui changent quelque chose dans les plans d'investissement d'un fonds qui débloque une grosse somme d'argent pour 8-10 ans de placement. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de deals qui se font hein, et des sociétés trouvent des financements et qui plus est dans le digital et ou avec des solutions qui justement montrent leur robustesse et leur compatibilité avec la nouvelle situation. Eh bien, ces sociétés-là qui peut-être pouvaient être considérées comme précurseurs juste avant la crise se retrouvent avec un produit qui est compatible avec le monde d'aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus, et ce qui fait qu'elles arrivent à attirer des capitaux. Donc non, aujourd'hui, ça n'a pas un impact direct. Ça a plutôt, peut-être ça favorise certaines sociétés par rapport à d'autres, évidemment. Mais en tout cas, globalement, l'activité d'investissement continue.
L'association que tu co-présides représente 1800 startups, on le disait en introduction. Est-ce que tu as prévu un suivi particulier pour les prochains mois afin de suivre la santé des entreprises innovantes dans la tech en temps de crise, ceux et celles que tu représentes en fait ?
En fait, on est toujours là, évidemment, pour nos membres. Quand ils ont une situation, un problème, on fait toutes les mises en relation possible et on va étudier les situations avec elles. Donc c'est quand même assez du cas par cas. Hein. On n'a pas, un outil de monitoring global sur toutes les sociétés. C'est quand même plutôt aux sociétés de venir nous solliciter quand il y a une problématique sur laquelle on peut intervenir. Cela dit, après, la vocation de France Digital, c'est pas non plus de financer ces sociétés-là si elles sont en difficulté. En revanche, c'est plutôt de les flécher vers des solutions qu'on a identifiées et qui pourraient les aider.
Pour faire redémarrer l'économie, on entend beaucoup parler de vert, d'utiliser l'écologie comme moteur de la croissance. Dans un même temps, le numérique est de plus en plus montré du doigt pour son empreinte carbone. Alors, devons-nous revoir la place des technologies dans le monde de demain, selon toi ?
Alors, je pense que la technologie, c'est un outil formidable d'optimisation des process métiers. C'est comme ça qu'il faut le voir et également comme une source d'emploi du futur. Je dirais pas intarissable, mais enfin en tout cas, il y a beaucoup d'emplois à créer dans le numérique. C'est pour ça qu'il faut bien le maîtriser. Après, les impacts du numérique, il faut toujours les mettre en perspective par rapport aux impacts positifs pour le coup qu'ils peuvent générer dans la vie de tous les jours. Si je prends un exemple là pour le coup que je connais bien, qui est BlaBlaCar, comme l'activité elle-même consiste à faire en sorte que les voitures ne soient pas vides. Et que ça a toujours été notre motivation principale de faire en sorte qu'on ne voit plus ou en tout cas beaucoup moins de voitures avec une seule personne à bord, mais que justement on optimise cette énergie qui roule. Et bien l'impact il est très fort sur le monde physique puisque on, grâce au covoiturage, on économise plus d'1,6 million de tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à une économie supérieure à la pollution atmosphérique CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc en fait, à l'année, BlaBlaCar permet d'économiser plus que l'intégralité des émissions de CO2 liées au trafic routier d'une ville de Paris. Donc après, évidemment, il faut quelques serveurs pour faire tourner un service comme ça, mais en même temps, ça apporte une telle optimisation dans le monde physique que ça contrebalance. Donc en fait, il faut compter tout ça, il ne faut pas compter juste le numérique en tant que tel, il faut compter ses effets bénéfiques aussi pour avoir une vraie balance.
Trouves-tu suffisant le plan de relance économique proposé par l'État ? On sait que dedans, il y a différents fléchages qui sont faits, notamment un fléchage sur l'économie du numérique. Est-ce que tu penses qu'il faudrait en faire plus ou que c'est plutôt satisfaisant ?
Alors, il y a un fléchage direct de 7 milliards, effectivement, sur le numérique. Après, ce que l'on pense, et c'est là où il faut aller chercher, c'est que dans le reste du plan, il y a aussi des optimisations qui vont aller être cherchées et qui vont passer par le numérique. Donc, les montants au final qui vont bénéficier au numérique seront sûrement supérieurs à 7 milliards. Après, ce qu'il faut considérer, c'est quand même l'échelle du monde dans lequel on se trouve. La valorisation cumulée des GAFAM, c'est plus de 5 000 milliards de dollars. Donc, j'ai envie de dire, quel que soit le montant qu'on peut afficher devant, plus sera toujours mieux parce que il faut quand même que on rattrape une partie de notre retard. Donc c'est un très bon pas dans le bon sens, ce plan de relance, évidemment. Il faut que ça soit un appel d'air pour des capitaux privés pour pouvoir venir faire un effet de levier et puis démultiplier ces efforts-là. En revanche, je pense qu'on n'a pas fini d'investir sur le numérique parce que c'est vraiment une voie qui va amener beaucoup d'emplois quand on la maîtrisera mieux. Et c'est également une manière pour la France de se repositionner sur l'échiquier mondial de la technologie, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pris pas mal de
temps. Merci Frédéric. Je rappelle que le 15 septembre à Paris se tient le France Digital Day. Les places sont dispo sur votre site francedigital.org. Il reste encore quelques places ?
Oui, il reste quelques places, oui. Je crois qu'il reste quelques places.
Donc ne pas traîner. Et c'est que Digital, il sera, et va installer son studio de podcast toute la journée pour interviewer vos meilleurs speakers. Et puis du coup, on se verra certainement sur place, Frédéric.
Oui.
À très vite.
À très vite.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.